Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans le débat d'octets qui suit juste celui de la WWDC et en rapport avec le WWDC nous parlerons de processeurs et de navigateurs internet, oui tout à fait. Comment ça, ça n'a rien à voir? Oui mais c'est simplement qu'une WWDC qui dure un mois, ça serait un peu long, pour ça je vous conseille de soit suivre le live de il y a 15 jours, soit de suivre la chronique tech qui a été faite juste derrière. Et justement, vu qu'on parle de live de la WWDC, j'ai avec moi en invité d'honneur Mathieu Blanco de MacJT.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. J'ai avec lui pour parler des processeurs, j'ai Hydrasiof.
Bonsoir à tous aussi.
Ensuite, nous parlerons de la petite bataille qui se passe entre les fans de Safari et les fans de Google Chrome au sein de l'équipe de Pod Radio. Et pour représenter à ma droite avec le WebKit et une interface by Apple, Safari représenté par Gugus.
Qui est au téléphone,
qui est mort, ah d'accord, qui va revenir, c'est bien, et donc qui est parti, hein, c'est la stabilité de Safari, mais on y reviendra, et de l'autre, un grand fan donc de Google
Chrome, du WebKit et de l'interface de Safari, mais avant que Safari sorte,
donc Puff Magic Fingers, bonsoir.
Oui, c'est moi.
Donc toi, tu t'introduis tout seul, toi. T'as même pas besoin de demander au MC.
Effectivement.
Donc Gugus, vu que tu es revenu de ton appel téléphonique, tu peux dire bonjour aux auditeurs, parce que je t'ai introduit, j'ai pas vu que t'étais parti.
Ah bonsoir, bonjour à tous, à tous les auditeurs qui nous écoutent et nous écouteront.
Voilà, donc j'ai entendu dire sur certains commentaires que je parlais un peu trop et que je coupais la parole. Eh bien, j'avoue que je vais tout faire pour éviter de faire trop ça, de m'améliorer. Et je vais pas éviter de m'améliorer, mais je vais m'améliorer. On va commencer tout de suite avec les processeurs et je vais laisser la parole dans un premier temps à Hydrasiof qui nous a préparé un petit historique. Et j'invite Mathieu à l'interrompre le cas échéant pour ajouter ses précisions. À toi, Hydrasiof.
Eh bien, les historiques du processeur ont été lancés en 1945 par le fameux ordinateur, enfin calculateur, qui s'appelait l'ENIAC, qui faisait à peu près deux notifications, plus et moins. Il ne pouvait pas faire de multiplication, et faisait à peu près 30 tonnes. Voilà pour l'historique du premier processeur. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme historique? Après, il y a eu plusieurs types de processeurs, notamment chez Mac et Windows. Et nous allons plutôt parler plus particulièrement de tout ce qui est Pentium, AMD Athlon, Intel Core de Duo, Intel Dual Core, Intel Atom, les nouveaux processeurs qui sont qui équipent les netbooks et les processeurs 64 bits. Voilà.
Si je sais que je devrais pas te couper, mais j'aimerais bien revenir sur l'ENIAC. Le processeur faisait 30 tonnes ou l'ordinateur faisait 30 tonnes?
Non, l'ordinateur qui. L'ordinateur faisait 30 tonnes, mais bon, il y a une partie du processeur qui était.
Il faisait la taille de la moitié ou tout un stade de foot, un truc comme ça. C'était énorme.
Exactement,
juste pour
faire
des additions et des soustractions.
Ouf. Tout à fait.
Ça a pas mal évolué, hein.
Oui, mais la question est, il va faire des sacrées soustractions et des sacrées additions quand même, parce que j'imagine pas les mecs qui font pour faire 2 et 2, on va construire un ordinateur.
Si, justement, les premiers, avant qu'il y ait le transistor et donc les microprocesseurs, t'avais des ordinateurs énormes avec des ampoules, avec plein d'autres choses à l'intérieur qui prenaient énormément de place, tout ça pour des additions aussi bêtes que 2 plus 2 ou des choses comme ça.
Mais c'était quoi l'intérêt?
L'intérêt, c'est ce qu'au bout de 10, 20, 30 ans, tu arrives à faire un microprocesseur et quelque chose de miniaturisé.
D'accord, donc on était à l'inverse de l'heure actuelle, où en fait, à l'époque, ils construisaient un ordinateur pour construire un ordinateur, alors que maintenant, on construit des supercalculateurs pour pouvoir faire des calculs de fou, quoi.
Voilà.
C'est-à-dire que là, le but, c'était d'informatiser un calcul plutôt que de le rendre plus rapide.
C'était créer des technologies.
D'accord, ok.
Et il y a surtout la technologie qui a évolué, comme ça s'appelle, dans les années 70 par rapport au transistor qui a été créé,
voilà.
Justement. Parce qu'avant, c'était des lampes. Et une lampe, ça chauffe, ça consomme beaucoup d'énergie.
Et ça
Tandis que là,
éclaire.
maintenant, c'est des transistors. Et sur un microprocesseur, tu as plus de 2 millions de transistors à l'intérieur. Donc.
Ça fait autant
en
de
fait, ça a
lampes
permis
ou
de miniaturiser. ça fait aussi lampe.
Non, mais sinon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que un transistor, ça remplaçait une lampe. C'est ça?
Tout à fait.
Ouais.
Donc, t'imagines 2 millions de lampes? Ça fait une ville, quoi.
Ouais, voilà.
Ah oui, carrément, ouais. Voilà, c'est sympa la consommation derrière aussi.
Donc, imaginez l'image poétique, vous avez toute une ville dans votre ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, on s'éloigne du sujet. Continue, je t'en prie. Oui, je. Traz
Oui, d'accord.
Ah, d'accord. Je t'en prie, enchaîne.
Ok, je croyais que tu parlais à Mathieu.
Non, c'est toi qui dirige. Donc, on va à ton rythme.
D'accord, donc par rapport aux transistors qui ont été créés dans les années 70, après en 1980, il y a de nouveaux processeurs, notamment de Motorola, qui ont été créés par. Qui ont été introduits dans les ordinateurs Apple ainsi que Windows.
Oui.
Tu veux dire les PC?
Je crois qu'on a perdu Drazioff, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il répond plus. Monsieur Aydrasiov, êtes-vous de retour? Et ça, j'aime bien quand en plein enregistrement.
Ah, d'accord, non, c'est ma snowball qui n'est pas reconnue.
Bien joué. On va la reprendre, Gisèle. Attention, 1, 2, 3, deuxième. Donc, tu disais?
Donc, je disais par rapport aux transistors des années 70, dans les années 80 et 90, ont été introduits, comme ça s'appelle, des nouveaux processeurs Pentium. Et il y a eu des Motorola, mais bon, pas tellement de succès par rapport à la puissance. Et je parlerai, enfin personnellement, de par rapport à mon cas, je parlerai plutôt des Pentium ou des AMD Athlon. Donc si vous avez des questions par rapport à...
Mais attends, je comprends pas. Tu dis que les Motorola, ils ont pas eu trop de succès.
Mais bah, moi, je... apparemment sur... Vas-y.
Oui, mais non, vas-y, finis, apparemment.
Non, parce que moi, personnellement, enfin les Motorola, enfin je les ai particulièrement reconnus sur les Macintosh.
Voilà.
Sur les Macintosh, enfin chez Apple.
Ouais, mais tu dis qu'ils n'avaient pas énormément de puissance, mais moi je me rappelle de pubs d'Apple, donc bon, c'est des pubs, mais bon, on imagine difficilement quand même qu'ils fassent de la pub sur des contre-vérités, qui disaient que les G3 fumaient littéralement sur place, hein, vu qu'on voyait la mascotte d'IBM, d'IBM.
Les Pentium.
De Pentium se faire brûler littéralement par le processeur G3 à l'époque.
Ah oui, tout à fait.
Donc je comprends.
Mais
pas,
il y avait aussi le système d'exploitation qui donnait un coup de main quand même aussi.
Oui, je pense que ça doit aider aussi. Si tu testes Photoshop sur Mac et que tu testes Photoshop sur Windows, ça doit pas être vraiment la même chose.
Exactement.
Mais bon, enfin, je sais pas.
Et après Motorola dans les années 90, ils ont été devancés. Enfin, 90-2000, ils ont été devancés par Intel, puisque là maintenant, des Motorola, t'en trouves pas tellement. Enfin.
Non, puis c'est IBM qui a repris les G quelque chose après chez Apple, non?
C'est IBM, ouais, tout à fait.
Ouais, il me semble.
Il y a eu beaucoup de trucs parce que ça a été Motorola, après ça a été Friscal, qui a une division, la division qui a été séparée, puis après ça a été repris par IBM. Donc il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de la société, des créations des processeurs. C'est aussi pour ça qu'on en est aujourd'hui avec une marque qui monopolise quasiment 80% du marché des processeurs.
Ouais. Mais c'est vrai que.
Faut savoir que AMD est quasiment aussi vieux en âge de société que Intel. C'est-à-dire ils ont commencé vers le même moment, excepté que Intel s'est énormément diversifié, a fait plein d'autres choses comme aujourd'hui, par des chipsets, des cartes graphiques,
Ils ont fait exactement comme Windows dans les sociétés ou dans les PC personal computer. Enfin, ils ont monopolisé en fait.
Voilà.
Tant et si bien qu'on a tendance à appeler la plateforme Windows sur un PC la plateforme Wintel.
Aussi.
Par exemple. Aussi. Mais donc, depuis le passage d'Apple au processeur Intel, ça s'arrête.
Oui, ça s'est un peu arrêté. Mais moi, j'avais pas mal entendu le terme Wintel justement pour dire au lieu de dire j'ai un PC quoi. Mais d'ailleurs, il y a pas eu des accords entre Intel et Microsoft.
Il y a eu des procès qui visaient à mettre au grand jour des accords entre les deux pour imposer chacun leur technologie et vendre un ordinateur avec Intel, un processeur Intel forcément avec Windows, etc. Mais ça, c'est plutôt dans fin des années 90.
D'accord. Mais donc justement, au niveau des puissances, parce que là, c'est une question, c'est la question méchante qui n'était pas préparée et qui vient comme elle vient. Donc si vous arrivez à y répondre, tant mieux. J'avais entendu dire qu'il y avait eu un certain cafouillage entre le passage du Pentium 3 au Pentium 4. Est-ce que
Ouais.
vous avez des informations là-dessus? Parce que moi, j'ai jamais compris. Pendant un temps, on me disait même qu'il valait mieux rester sur le Pentium 3 que j'avais, qui était un giga et quelques, que de passer sur le tout nouveau Pentium 4, au tout début du Pentium 4, avant qu'il soit en hyper-threading. Donc, il y a vraiment eu un recul de technologie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce cafouillage?
Qui veut répondre?
Il y avait surtout, comment ça s'appelle, de la dissipation de chaleur sur les Pentium 4, enfin les premiers, hein. Par exemple, tu prenais un Pentium 4 1,8 Go et tu prenais un Pentium 3 1,3 Go ou 1,2 Go, enfin je ne me souviens plus exactement la puissance. Eh bien, c'est vrai que le Pentium 3 avait tendance à moins chauffer par rapport au Pentium 4 et était beaucoup, le Pentium 3 était beaucoup plus puissant, enfin plus puissant de quelques pourcentages par rapport au P4.
D'accord. Et donc ils sont gaufrés où en fait?
Ils sont gaufrés à plusieurs endroits. À cette époque, l'époque du Pentium 4, comment dire, Intel a clairement démontré que la course au gigahertz, c'était pas la bonne technique. C'est-à-dire, on avait tendance depuis, comment dire, les années 90, quand il y a commencé à avoir des ordinateurs personnels partout, dans les grandes surfaces, que ça commençait à entrer dans la maison des gens. Fallait avoir le processeur avec le plus de mégahertz au début et de gigahertz quand c'est apparu. C'est-à-dire, en gros, si tu venais, voilà, j'achète mon ordinateur, c'est un peu comme la voiture, tu regardes celle qui a le plus de chevaux. Voilà. Et donc, en fait, il y a eu une course entre les constructeurs à celui qui allait proposer le processeur avec le plus de gigahertz, comme si c'était l'unique élément qui faisait que plus t'as de gigahertz, donc normalement, ton processeur, c'est le plus rapide, comme une voiture. Le problème, c'est que c'est absolument pas aussi simple que ça. Il y a un processeur, c'est quelque chose d'incroyablement complexe. Il y a je sais pas combien d'éléments à prendre en compte pour la puissance. Et donc là, Intel est vraiment allé au bout d'une architecture de processeur en la poussant au maximum dans ses retranchements pour avoir le plus de gigahertz. Et ça a donné un processeur, mais pour beaucoup de modèles, complètement catastrophique en dissipation de chaleur. Et puis à l'intérieur, il y avait un problème. Au niveau des composants, enfin des composants du processeur comme le pipeline qui était beaucoup trop grand, ça on pourra expliquer après ce que c'est. Ce qui
Ah
fait que
ben, explique-le dès maintenant, à la limite.
pipeline, c'est
En
une
quelques
technique.
mots.
En quelques mots, alors à l'intérieur d'un processeur, il y a plusieurs choses. Il y a le cœur de calcul, et il y a le pipeline. C'est une technologie qui vise à qui, comment dire, qui permet d'exécuter les instructions en les parallélisant par étapes. C'est-à-dire les instructions qu'on va rentrer, les calculs qui doivent être faits dans le processeur, ils vont être organisés dans une file d'attente et découpés. Et
D'accord.
donc on a des cycles d'horloge, fameuses mégahertz, gigahertz. On a des cycles d'horloge et les calculs à l'intérieur des cases, ils vont être calculés. Et un pipeline, ça fait environ 5 étages de parallélisation d'étapes et de découpage. Dans le Pentium 4, il y en a 30. Il y a 30.
D'accord. Il y a
Donc en
30
fait, ils ont fait un pipeline énorme. Et plus tu fais un pipeline énorme, plus tu as des problèmes parce qu'une information va être dépendante d'une autre. Ce qui fait qu'une partie du calcul ne peut pas être résolue tant que la première case n'est pas résolue. Ce qui fait que faire un petit pipeline, ça cause des problèmes parce que t'as pas assez de place et donc ton processeur doit faire beaucoup de choses. Mais plus tu le fais grand, ça pose d'autres problèmes. Il y a un juste milieu. Et alors là, dans ce Pentium 4, tu as une course au gigahertz, donc une dissipation de chaleur excessive. Et en plus, tu as un pipeline énorme et tu as beaucoup d'autres choses qui ont fait que les Pentium 4 se sont avérés, surtout les premiers modèles, une catastrophe en termes de puissance, c'est-à-dire le Pentium 3 quand tu était mieux que le Pentium 4 qui était censé être plus rapide et dissiper beaucoup plus de chaleur, et qui dit plus de chaleur dit consommation d'énergie excessive.
D'accord, mais un pipeline en fait, il faut qu'il y en ait plusieurs qui, comme un peu, imaginons que est-ce qu'on peut faire une analogie avec les caisses de supermarché, par exemple, où chaque client c'est une tâche, d'accord? Et là, lui, il avait 30 caisses ouvertes, c'est ça?
Ouais.
Grosso modo. D'accord? Et en fait, tu dis que s'il y a 40 caisses, ça pose problème, c'est ça?
Voilà.
Non, c'est, ou alors c'est si on fait que faire en sorte que les caissières soient plus rapides, c'est problématique parce que de toute façon, le dernier client de la file, il mettra toujours beaucoup plus de temps que si on a 40
Savoir
papayes.
que, voilà, et que les clients, en fait, sont l'information, en fait, une information à calculer dans ton processeur peut être découpée et mise sur plusieurs caisses. Et ce qui fait que
D'accord.
quand tu découpes une opération, bah, tout d'un coup, tu as besoin d'attendre un résultat qui n'est pas encore calculé. En fait, l'objectif du pipeline, c'est être capable de réaliser chaque étape en parallèle avec les étapes amont et aval, c'est-à-dire de pouvoir lire une instruction lorsque la précédente est en cours de décodage, que celle d'avant est en cours d'exécution, que celle située encore précédemment accède à la mémoire. Et comme tu as une interdépendance, les informations sont dépendantes d'une trelle, plus tu vas la faire grande, plus tu vas avoir de la place pour mettre ça, plus ton processeur, il va devoir faire d'opérations pour arriver à la fin.
D'accord, je comprends. C'est-à-dire un peu comme si chaque client, son caddie était découpé sur plusieurs caisses.
Voilà.
D'accord? À la fin, le client, pour qu'il puisse repartir avec son caddie plein, faut bien que toutes les caisses soient arrivées à faire tout.
À
Sauf qu'il y en
traiter,
a, voilà,
voilà.
sauf qu'il y en a un, c'est son vélo d'appartement, donc ça a été juste imprimé à scanner. Et l'autre, on a scanné les cacahuètes une par une. C'est ça?
Voilà.
Donc
Ouais.
forcément, on sera obligé d'attendre qu'on ait fini de scanner toutes les cacahuètes, alors que le vélo d'appartement, ça aurait été plus rapide. Enfin, c'est ça
Exactement.
le. D'accord, ok.
En gros, on va résumer ça comme ça. Je sais qu'il y en a, j'ai déjà reçu des mails d'autres sujets, comme quand on simplifiait trop, mais je
Oui, mais
suis
moi j'aime
désolé
bien les
pour les
mails
singés.
d'insultes qui me disent que je simplifie trop, ça veut dire que j'ai atteint mon objectif.
Voilà. Non,
Moi,
mais
mon
c'est
but,
ça, en
c'est
fait.
que la ménagère de moins de 50 ans, que je respecte et qui d'ailleurs fait les courses, hein, du coup, c'est pour ça que je fais des analogies. Et là, je vais me prendre des mails d'insultes pour être misogyne, ça va être terrible. Mais non, mais sérieusement, le but, si on n'explique pas un truc qui avec des mots compréhensibles et de la vie de tous les jours,
Si on
ça
dit
sert à
on est
rien, quoi.
obligé de zapper des choses très
Voilà,
importantes dans la
quitte à être même complètement faux sur certaines choses, du moment que l'esprit est compris, c'est ça le but. Donc, si vous connaissez beaucoup, eh ben, écoutez, tant mieux pour vous. On essaie juste d'être à un niveau en dessous. Voilà, donc,
Donc en gros
mais
c'est
n'hésitez
ça.
pas à m'envoyer des mails d'insultes, j'aime bien ça.
Donc en gros au final t'as un
Envoyez-moi
processeur
aussi des mails
qui
d'insultes par rapport au site web.
D'accord.
Donc en
Donc,
gros au final t'as
oui.
ça, t'as un processeur qui chauffe beaucoup, qui consomme énormément et qui dû à son architecture qui est en fin de vie est moins rapide que les anciennes générations. Donc au final t'as une bouse. Voilà.
D'accord. Et finalement, ils ont amélioré ça avec le HT ou c'est avec le
Voilà
hyperthreading ou d'ailleurs c'est quoi hyperthreading?
On
Oui,
va
je sais,
résumer.
je sais.
Est-ce que
Alors, prenons une caisse de supermarché.
Gugus peut m'aider?
Oui, Gugus,
Vite fait
hyperthreading.
là. Attends, bah si je dégaine Safari assez rapidement.
Non mais vous avez le droit de aussi pas savoir hein, les gars. Là c'est des questions qu'on parce que
Oui,
moi
en
je me
plus,
rappelle qu'à l'époque on me disait juste que HT c'était pour haute température sur les Pentium 4, mais je suppose que c'était pour autre chose. Mais
Alors, d'après Wikipédia,
oui.
l'hyper-threading, soit en français hyperflux ou hyperflow, est le nom donné par Intel à son adaptation du SMT, Simultaneous Multithreading, à deux voies
Waouh.
dans le Pentium 4. Le premier modèle grand public à en bénéficier fut le 3,06 GHz basé sur le Core Northwood, le machin, bon bref. Et donc
C'est
en
après
gros,
coup.
ça consiste à créer deux processeurs logiques sur une seule puce. Donc en fait, c'est comme si on avait deux processeurs, mais avec un seul processeur.
C'est de la
Si.
virtualisation de dual core, quoi.
Ouais,
Ouais, en gros.
pour ceux qui avaient Windows XP à l'époque, quand tu faisais un contrôle Alt Sup pour regarder tes processus dans la mémoire et que tu allais dans le troisième ou quatrième onglet pour voir comment dire, ton processeur à quel pourcentage il est pris. Là, ton Windows, il pensait, c'est-à-dire, il croyait qu'il y avait deux processeurs, qu'il y avait deux cœurs de processeurs.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un seul processeur avec qui gérait très très mal un gros nombre de tâches, en fait, il le divisait en deux processeurs qui géraient un plus petit nombre de tâches,
Mais
d'après ce que je comprends.
voilà, c'était pas physique comme les Core 2 Duo,
Voilà.
où vraiment tu as deux puces de calcul. Là, c'était une puce qui était divisée en deux, mais logiquement, c'était logique, c'était pas physique.
Virtualisation.
D'accord. Eh
Voilà,
bien,
mais ça c'est.
justement. Justement, vu qu'on parle de processeurs avec deux cœurs, à moins qu'on n'en soit pas encore là dans ta ligne directrice, Drazioff,
Si, tout à fait, on y est.
si, il me semblait aussi, parce que je l'avais lu, mais je l'ai pas retrouvé là. Donc, eh ben, parlons justement des doubles cœurs.
Eh bien, après le Pentium 4, il y a eu le Pentium Dual Core.
Donc, ah, c'est pas le corps duo, ça?
Non, ça c'est après. Non.
Ah, c'est un autre. Ah, d'accord.
Le corps duo, c'est celui d'après, ouais.
Non, parce qu'on en a encore des Pentium Dual Core à l'heure actuelle. Hein. Je sais pas si vous savez, quand vous achetez sur Dell, par exemple, il y a encore des Dual Core, donc c'est la même chose.
Et qui achète sur Dell?
Peut le vider leur stock.
Moi, monsieur. Parce que j'aime bien. Non, mais je vais me faire huer, hein, mais j'aime bien les trucs de Dell. Enfin, je sais pas, moi, j'en ai, ils tournent depuis des années, j'ai eu aucun problème. Alors que j'ai acheté du Packard Bell, j'avoue que c'est l'exemple complètement inverse, où le hardware c'est non Packard Bell, j'y tiens et je persiste, où le hardware m'a lâché assez rapidement, ou même j'ai eu un Toshiba aussi qui s'est, où le hardware était pas fiable à 100%, par exemple sur le portable Toshiba, pour la petite histoire, c'était la prise pour le transfo qui se dessoudait de la carte mère, enfin qui s'était dessoudé de la carte mère, donc ça vous donne l'idée de la qualité des soudures. Donc, c'est ce genre de choses à la con, et c'est par expérience. J'ai eu des Dell, ça a marché. J'ai eu des Toshiba et des Packard Bell et ça a pas marché. Donc, je suis resté chez Dell. Mais après, j'ai juste pas eu de chance avec un peu. Enfin, j'espère pour vous qui avez des Packard Bell et des Toshiba. Mais bon, voilà. Donc, c'est juste par un retour d'expérience perso. D'accord. Donc en tout cas, toujours est-il que si vous regardez sur le site de Dell dans les configurations au choix, vous avez entre autres dans les processeurs des Pentium, pas dual core, si ça doit être ça. C'est quoi le nom, Drasiov, s'il te plaît, parce que là du coup il me revient plus évidemment.
Le E2140 et le E2160, les deux qui sont fabriqués en dual core encore.
Voilà, bah, c'est
pour
ça.
Pour les PC portables. Hein.
Voilà, oui, pour les PC portables évidemment. Oui.
Sinon donc, pour les bureautiques, c'est arrêté ça. Puisque c'était remplacé par le Intel Core 2 Duo en 2006.
Donc c'est les Pentium Dual Core, d'accord. C'est ceux-là qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils datent de combien de temps?
Ils ont été créés. Leur fin de fabrication, c'était en début 2006.
Voilà, donc ils datent vraiment.
Ouais, donc c'est découplage de stock.
C'est ça.
Non, ça peut durer longtemps, les Dual Core, de toute façon, hein, puisqu'après.
Et en plus,
après l'architecture du Dual Core, c'était du 32 bits. Tandis que le Intel Core 2 Duo, il peut supporter le 64 bits.
D'accord. Alors par contre, là, se pose la grande question qu'on s'est tous posé un jour.
Quelle est la différence?
C'est exactement ça. Quelle est la différence entre le 32 bits et le 64 bits? Attention, je tiens à préciser une chose avant que vous démarriez. Pour la ménagère, je précise que vous adressez à la ménagère de moins de 50 ans, donc je veux pas des histoires ultra compliquées. Simplement, c'est quoi la différence pour moi, utilisateur?
Alors au final, la différence, c'est, j'ai préparé une petite explication simplifiée, mais au final, ton ordinateur est simplement censé aller plus rapidement, les logiciels sont censés aller plus rapidement, quand tu manipuleras de gros fichiers vidéo ou photos, c'est censé se faire comme ça, au final ça ira juste plus rapidement, voilà.
D'accord.
Ça
c'est juste la finalité, c'est-à-dire que si le système est 64 bits, est 64 bits, ça ira plus vite que ce que j'avais avant, c'est ça?
Voilà.
Globalement. D'accord.
Voilà. Tout à fait. Et donc l'explication, parce que j'ai dû rédiger un texte, parce que sinon faire une impro là-dessus, faut vraiment être ingénieur, et puis si t'es ingénieur, c'est pas compréhensible pour la ménagère. Un bit, c'est la plus... BIT, c'est la plus petite unité de mesure de l'information en informatique. Donc c'est le fameux code binaire, c'est 0 ou 1. Mm-hmm. Ensuite, on a les octets. Donc octet,
ou byte, en anglais.
Ou byte,
parce
en anglais.
Parce que ça arrive qu'on l'entend.
Ouais. Donc BYTE, octet, qui dit octet, donc 8. Donc un octet composé de 8 bits. Voilà. Ouais. D'accord. Mm-hmm. Et les processeurs disposent d'une architecture. Donc on a d'abord eu les processeurs 8 bits, 16 bits, 32 bits comme actuellement, ou 64 bits. D'accord ?
D'accord.
Donc, le nombre de données que le processeur est susceptible de traiter à chaque cycle de calcul, c'est un octet sur un processeur 8 bits, parce que forcément, un octet, il y a 8 bits dedans, donc un processeur 8 bits, il peut calculer un octet. Ça va ?
Mmh. Ouais.
Un octet sur un processeur 8 bits, donc 8 octets sur un processeur 64 bits. On fait une simple multiplication.
Ouais.
Voilà. Comme chaque bit peut avoir deux valeurs différentes, 0 ou 1, un processeur 32 bits peut donc traiter 2 milliards.
Ou bien 4 gigas.
Voilà. Au final, un processeur 32 bits, il peut gérer 4 gigas de mémoire.
D'accord. Et à l'heure actuelle, on gère combien de mémoire?
Bah actuellement, ton ordinateur est en grande totalement en 32 bits, donc il peut gérer 4 Go de mémoire.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que moi, si je mets 8 Go de... Là, je sais que
Ça
c'est
servira à
faux,
rien.
mais je pose la question. Si je mets 8 Go de RAM dans mon ordinateur, ça servira à rien.
Exactement.
Voilà.
Par contre,
Donc
quand tu
parce que
passeras
si on...
sur quand tu passeras en 64 bits, là, par contre, oui.
D'accord.
Voilà, donc
Donc,
concrètement, un processeur.
sur les iMac qui vendent avec 8 Go de RAM, en fait, il y a 4 Go qui servent à rien.
En fait, c'est 4 Go, le processeur est capable de gérer jusqu'à 4 Go par application. En
Ah,
sachant qu'il en
d'accord. OK.
prend. Qui prend. Après, là, on commence à aller dans le technique. Donc après, tu as des divisions, tu as la gestion de la mémoire. Ça devient technique, mais en gros, il faut comprendre que c'est limité. C'est
D'accord.
en fait un processeur 32 bits, il est capable de compter de moins tatatin. Il est capable de compter de moins 2 milliards à plus 2 milliards dans la
D'accord.
gestion des nombres entiers. Et comme il est limité dans cette plage de chiffres, l'attribution de la mémoire peut se faire que jusqu'à 4 gigas
D'accord.
par
OK.
application. Alors qu'un processeur 64 bits, là le chiffre qu'il est capable de gérer, c'est 18
42 Tera.
trillions.
Ah oui, 18. Ah oui, carrément, ouais. Ah,
Donc,
on n'a pas encore les disques durs qui sont capables de faire ça. Donc de là à ce qu'on en soit à la mémoire vive.
voilà. Donc, comme il peut gérer des chiffres beaucoup plus grands, il va pouvoir attribuer des espaces de mémoire. Il peut gérer des espaces de mémoire beaucoup plus grands. Et dans la
D'accord.
théorie, un processeur 64 bits, ça peut gérer, je sais pas combien de centaines de gigas de mémoire.
Bah 16 exibioctets.
Voilà, c'est des carrément.
D'accord.
Voilà, c'est des hexaoctets, donc on n'est même pas. Bon, ça c'est comment dire, c'est purement théorique. Dans la pratique, je crois que ça se limite
N'arrivera jamais, oui.
à 130 gigas dans la pratique à l'heure actuelle. Mais c'est dans la
D'accord.
pratique.
Donc
Donc
en fait,
voilà.
si on revient sur l'analogie de la caissière, en fait là on est sur une caissière à quatre bras. C'est-à-dire qu'elle est capable d'avoir deux fois plus de
Ouais.
produits dans les mains. Bon, même si là en
Exact.
l'occurrence elle est capable d'en avoir beaucoup plus, hein, si on s'en tient aux chiffres, mais pour rester
Moi, je
dans un
dirais plutôt,
concept.
si tu veux rester dans
Oui?
le concept du magasin, c'est plutôt la personne qui va ranger les produits, ranger
Et
et
les mettre
enlever
dans
les
les
produits
sacs?
avariés. Voilà. Si
Ah,
tu
tu
veux,
vois,
les
d'accord.
appeler. Voilà, les camions, ils arrivent pour décharger les produits, puis là, tu as une personne avec deux bras, c'est ton processeur 32 bits, et tout d'un coup, on va mettre un processeur 64 bits, donc c'est une personne avec quatre bras.
D'accord, ok. Et donc elle est capable d'avoir plus d'objets à la fois dans les mains, et donc
Voilà, et de
forcément les
remplir plus
traiter va plus
d'espace.
vite.
Voilà.
D'accord. Ok, bah là c'est un peu plus
Et
clair.
donc, c'est pour ça que si maintenant tu fais un montage vidéo sur un ordinateur actuellement, comme l'application qui va faire ton montage vidéo, elle est limitée à
À
4 Go de
4 gigas.
mémoire, si tu traites un gros documentaire hyper long, bah ça va ramer. Parce que
Bah déjà
forcément,
c'est
vu que
déjà en DV ça rame assez vite, hein.
déjà
Vu
ça ramasse
que
assez vite, t'as pu le
ça prend de
remarquer.
la place, ouais.
Voilà, pourquoi? Parce que le DV c'est énorme, c'est un format, vu que c'est un. Quand tu le traites, il est non compressé, la moindre minute elle fait je sais pas combien de centaines de mégas, donc ton projet en entier fait plusieurs gigas. Donc forcément il est obligé d'écrire sur le disque dur et pas dans la mémoire. Donc
D'accord,
qui
donc.
et comme il doit écrire et lire sur le disque dur des gigas d'informations, et bah t'as l'impression que ton application elle rame.
D'accord,
Et
alors que
comme là
ça
on va
vient
pouvoir.
simplement du fait qu'il n'est pas capable de tenir le projet en entier dans ses mains.
Et
C'est ça?
voilà.
Ok.
Exactement. Et comme là, on va avoir un processeur 64 bits qui peut gérer un espace de mémoire immense par application, et bah, il va charger au maximum tout ce qu'il peut dans la mémoire.
D'accord, donc reprenons le cas du gars qui s'occupe de le magasinier qui s'occupe des stocks. C'est
Voilà.
comme si à
Là, il
chaque
aura
fois
quatre
qu'on devait
bras.
lui c'est comme si on à chaque fois qu'on devait lui demander un produit, il était obligé d'aller le chercher au fin fond du magasin et de revenir avec.
Voilà.
Tandis que là, la différence, c'est qu'il les a à peu près tous dans les mains, quoi.
Exactement.
D'accord, ok. C'est bien finalement les magasins pour les analogies.
C'est vachement bien.
Si
Et
on
donc
calcule.
après, il faut
Parfait.
là où ça va être difficile de faire une analogie avec le magasin, c'est qu'il faut que d'une, le système gère correctement le 64 bits, que les drivers de l'ensemble des composants le soient aussi et le gèrent très bien, et après que l'application soit optimisée pour le 64 bits. Forcément, ça se fait pas comme ça.
Bah donc dans ce cas-là, t'as qu'à dire qu'il faut que tous qui parlent à peu près la même langue, sinon ça va être le
Voilà.
bordel. Si tu prends
Faut
des
tous qui
Chinois, des
parlent.
Tchécoslovaques, des Turcs, des Français,
Tu
des
les mets dans un
Italiens,
magasin
etc.,
et
et qu'il n'y en
que
a pas un qui parle la langue de l'autre, je peux te dire que ça va être bien le bordel. Et que
Ouais.
le faire par le langage des mains, ça va être un peu plus long. Voilà, on pourrait, voilà, l'analogie un peu foireuse sur les bords. Et bien, sur cette analogie foireuse, je propose qu'on marque une petite pause, vous voyez.
Rajouter.
Oui, ben oui, mais on reprendra juste après si tu veux. Les processeurs sont pas finis, on finira juste après la pause, parce que là, je pense qu'on a besoin de réfléchir un petit coup et de et de repartir, de prendre une petite bouffée d'air, aller boire un coup, et on se retrouve dans 4 minutes 27 juste après Come Back to You. Justement, ben on reviendra vers vous. Donc, Come Back to You, c'est de Silence Is Sexy. Bonjour à ceux qui viendraient de nous rejoindre, bonjour aussi à toutes et aux autres. J'ai avec moi Hydrasiof, Mathieu Blanco, Gugus et Pof. Et juste avant la pause, nous étions en train de parler de la différence entre les processeurs 32 et 64 bits, pardon, car nous étions en train d'entamer le virage entre les Pentium Dual Core et les Core de Duo. Donc je t'en prie, Drasiof, reprends le fil de l'histoire. Si tant est qu'elle ne soit pas finie.
C'était par rapport au processeur 32 bits. Oui. Sachant que Windows, désolé de parler de Windows encore une fois, le système Windows XP ne supporte que 2 gigas de mémoire.
Non.
Si, tout à fait. Et pour ajouter, et il peut reconnaître 3 gigas, mais pour cela, il faut modifier le fichier boot.ini. Voilà.
D'accord, et bien c'est bien de savoir.
C'était la petite parenthèse.
Chérie, tu peux enlever 1 giga de mémoire dans ton ordinateur, il n'est pas capable de Oui, donc désolé, c'était...
Donc les gens qui mettent 8 gigas de RAM dans leur micro alors qu'ils tournent en 32 bits, c'est même pas la peine.
Ah ouais, non, mais le pire, c'est qu'il y en a plein qui doivent le faire.
Tous les jackies du tuning qui font ça.
Ah non, mais pas que des jackies du tuning, hein, des mecs qui vont acheter des ordinateurs à la Fnac. Hein.
Ouais.
Tout simplement, ouais. je veux dire, c'est quand même le paradis du conseil foireux, donc...
Ouais. Mais, on est bien d'accord.
Et d'ailleurs, si vous avez 2 minutes à perdre, tapez Fnac dans la recherche qu'on a sur le site. On a un poste spécial.
Il y a les perles.
La Fnac de Clermont-Ferrand.
Avec la Fnac de Clermont-Ferrand qui est arrivée à nous faire 2 énormités dans la même visite. Pourtant, on connaissait la Fnac, mais là, on a vraiment été sur le cul. Donc, allez y jeter un coup d'œil. J'avoue que c'est pas mal. Revenons sur notre sujet. Donc, attendez, le truc, c'est que certains jeux à l'heure actuelle, et plus ça va, plus ça continuera, ne peuvent clairement plus tourner sur XP s'ils demandent un certain nombre de mémoire vive.
Tout à fait.
S'ils demandent 4 gigas de mémoire vive, ce qui va être le cas, à mon avis, assez rapidement, puis je sais pas, c'est Crysis qui fait la loi en ce moment au niveau de savoir si un ordinateur est bon ou pas. Il doit demander un sacré paquet de mémoire vive, donc c'est forcément Vista, quoi.
Soit tu passes en XP 64 bits.
Oui.
Pof,
ton micro. Pof, ton micro. Tu reviendras quand t'auras un micro qui marche. Donc tu disais, Drasiof ?
Soit tu passes en Windows XP 64 bits, où là ta RAM sera reconnue, soit tu passes directement sous Windows Vista, ou encore mieux sous Windows 7, qui est beaucoup plus stable que Windows Vista.
Oui, mais Windows 7 n'étant pas officiellement sorti encore, l'échappatoire la plus concevable reste donc Windows XP 64 bits.
Oh, c'est... Ouais, carrément.
Ouais, mais là, ça va être les personnes qui veulent passer un Windows, parce que Windows Vista existe aussi en version 64 bits, faut s'attendre à beaucoup de problèmes d'incompatibilité, ne serait-ce que pour les drivers le driver de votre ordinateur, etc.
Et ce que j'essayais de dire, c'est que j'avais vu quelque part que Windows Vista ne gérait pas plus de 4 gigas aussi.
Ouais, eux, c'est 4 gigas.
D'accord.
C'est un système 32 bits. En fait, il y a eu toujours plusieurs branches dans les systèmes de Microsoft. T'as Windows XP qu'on connaît tous et t'as Windows XP 64 bits. Pareil pour Windows Vista où t'as je sais pas combien de versions de Windows Vista qui sont tous en 32, mais t'as aussi une version de Vista spécifiquement 64 bits.
D'accord. Mais le problème, c'est que. Pourquoi ils font pas comme macOS
parce que...
Non mais pourquoi ils font pas toutes les versions 64 bits, je veux dire, vu qu'ils ont de toute façon la technologie à développer, pourquoi ne pas l'implémenter partout? Enfin, je comprends pas trop. Il y a le 64 bits, il y a une limitation, il faut avoir un minimum de puissance, ou c'est juste une politique commerciale.
C'est juste que
c'est commercial, certainement, ça c'est clair.
C'est comme l'USB. L'USB, ça a été intégré dans les premiers Mac en 1997 ou 98 et il a fallu attendre quasiment 3 ans ou 4 ans pour que vraiment... En 99, voilà.
Non, pour les PC. Hein.
Oui, voilà, pour les PC, les premiers ont commencé à sortir un an après, donc il y a quand même un an qui se passe, et pour que vraiment ça soit généralisé à tout le monde, il fallait attendre encore 2 ans, 2 ans et demi, voire plus. C'est parce que c'est une grosse... T'as je sais pas combien d'entreprises qui sont sur ce marché, et que pour tous les mettre d'accord, tout d'un coup, il faudrait dire, bon, bah, on perd la rétrocompatibilité.
D'accord.
Applications...
C'est vrai que c'était gênant pour le côté prise qui se veut universel.
Ouais.
Voilà.
Vu que c'est universel, serial bus, USB.
Et donc là, pour ce qui est pourquoi Microsoft fait pas, allez hop, la prochaine version elle est que 64 bits, dans ce cas-là, tu peux dire pourquoi Microsoft ils disent pas, bon, bah, on fait comme Apple en l'an 2000, on arrête notre système et on en refait un depuis zéro, parce que Microsoft, ils ont cette politique commerciale de vos applications datant d'il y a 30 ans, elles vont continuer de fonctionner, parce que la plupart des boîtes, des grosses boîtes et de leurs gros clients, ils ont des logiciels de gestion horribles.
Enfin, ça s'est pas vu sous Vista, hein. Que ça continue à marcher, les vieux logiciels. Parce que ouais, sous Vista, il y a eu des gros problèmes de rétrocompatibilité.
Voilà, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. À force de vouloir toujours garder une rétrocompatibilité maximum, eh ben, t'en arrives au point où ton système, dès que t'essayes de le modifier, ça part en vrac, etc. Et au final, ils nous ont fait un truc bâtard.
Mais soyons honnêtes, même sous XP, il y avait des incompatibilités par rapport au logiciel estampillé 95 ou 98. On peut pas faire un logiciel qui soit 100% compatible avec tout, quoi.
Mm-hmm.
C'est,
ouais.
C'est juste impossible.
Donc, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça, et si tu veux passer à une version de Windows 64 bits, il faut que tous tes composants aient des drivers 64 bits, donc là il faut voir à chaque composant si le constructeur a fait une version 64 bits, si elle est optimisée, si elle fonctionne bien, etc. Donc c'est pour ça que moi le marché du PC va encore rester en 32 bits un certain temps à mon avis avant que ce soit généralisé.
D'accord. Drasiov, as-tu fini ton historique ou as-tu encore des choses à nous apprendre ?
J'ai fini l'historique, mais par contre j'avais fait une comparaison entre les AMD et les Intel.
Vas-y, fais-nous un benchmark en audio, s'il te plaît.
Niveau performance, je parle. Hein.
Commençons par le plus vieux. Par le moins rapide actuel et comparons-le avec un vieux.
Bah, AMD, Intel, le Intel Celeron D, tout simemment.
D'accord.
Et qui tourne à maximum, je crois, si mes souvenirs sont bons, 1,6 gigabits.
Gigabits ou gigahertz ?
Gigahertz, pardon.
Oui, mais attention, on a dit tout à l'heure. Oui, mais attends, là tu nous mets le doute, parce que tout à l'heure Mathieu Blanco, il a dit que la course aux gigahertz, c'était pas forcément la caractéristique qui disait si un processeur était rapide ou pas. Donc si tu nous dis qu'il tourne que à 1,6, ça nous avance pas forcément là. Donc je sais pas, t'as pas un chiffre sur lequel on pourrait comparer par rapport aux autres. Comme les benchmarks le font, un indice, par exemple, tu dis, bah celui-là, il a un indice de 350 et celui au-dessus, il a un indice de 2250. Là, on voit que il va x fois plus vite en théorie, quoi.
Bah, Intel Celeron et Pentium 3, c'est quasiment la même puissance.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Et il y en a encore des Intel Celeron ?
Et il y en a malheureusement, il y en a encore, ouais.
Ah ouais, d'accord. Donc il y a encore des mecs qui, sans le savoir, tournent sur un Pentium 3.
Eh
bah, c'est beau la vie. Donc en gros, avec ça, on fait tourner XP, jamais Vista tournera dessus.
Si, il tournera Vista, mais il faudra que tu attendes 45 minutes avant qu'il démarre. Là,
oui, d'accord. Il
faudra avoir
un message
d'erreur.
Il faut savoir que l'architecture processeur de nos Intel Core 2 Duo ou Dual Core, c'est un héritage des Pentium M. Je sais pas si vous vous rappelez de ces fameux Pentium M qui sont sortis
justement, parlez-en. Ça tombe bien.
Non mais pour dire que l'architecture d'un processeur, c'est quelque chose de toujours d'extrêmement ancien. Là, je crois que l'architecture sur laquelle est basée les dual core, elle a 8 ou 9 ans, un truc comme ça, voire plus.
D'accord. Et oui, mais développer une nouvelle technologie, c'est peut-être super long aussi.
Et une architecture de processeur, c'est un truc horrible. Tu commences à lire des documentations sur je pense là que Gus pourra nous en parler, vu qu'il a été étudiant là-dessus. C'est quelque chose d'extrêmement complexe.
De fabriquer un processeur, hein.
Une architecture de processeur ?
En fait, maintenant, c'est un peu automatisé, mais c'est vrai que au début, quand on construisait un processeur, il fallait réfléchir à comment optimiser ça. Après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de ressources de pouvoir optimiser
que généralement, quand il y a une architecture de processeur, elle est évoluée au fil du temps. Et donc, pour en revenir à ce fameux Pentium 4, je crois que c'était la sixième génération qui était basée sur cette même architecture. Pour donner l'exemple, voilà.
Bon, continuons dans les benchmarks si vous le voulez bien, car on dépasse déjà le temps qui était imparti au processeur normalement. Mais c'est pas grave, on prendra le temps, c'est un sujet qui est intéressant et qui mérite d'être traité en profondeur. Donc Drasiov continue.
Après, il y a eu, comme ça s'appelle, les processeurs spécifiques pour les PC portables. Il y a eu notamment le Intel Centrino, je sais pas si vous vous en souvenez.
Ça me dit quelque chose. C'était pas celui qui intégrait le premier, les technologies Wi-Fi et tout dans les cartes mères, si c'est ça.
Tout à fait. D'accord. Parce que c'était des cartes Intel, donc ils avaient tout intérêt directement dessus. Et ils consommaient surtout beaucoup moins d'énergie.
Ouais, bah, j'en ai eu un. Le Toshiba qui est tombé en panne parce que ça se dessoudait, c'était lui.
Ouais, les tout intégrés sur des cartes mères Intel aussi, faut se méfier.
Oui, pourquoi ? Développe, s'il te plaît.
Eh bien, parce que j'ai déjà eu des choses, des ordinateurs avec des cartes mères Intel où tout était intégré, et le problème, c'est que ça a tendance à pas très bien marcher vu que c'est intégré, et c'est beaucoup moins puissant que quelque chose qui serait pas intégré. Bon, après, je disais une grosse connerie, hein, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en ayant des trucs.
Mais c'est peut-être parce que t'as l'habitude des chipsets graphiques qui, effectivement, et ne valent pas une carte graphique qui prend une carte complète qui se branche en AGP pour les plus vieilles. Non, d'ailleurs, les plus vieilles, ça devait être en PCI, d'ailleurs.
Les plus vieilles, c'est Lisa.
Ah oui, Lisa, évidemment, ouais, les gros connecteurs noirs de 2,50 m de long, ouais. Je me rappelle. Énorme. J'avais une carte son en ISA, c'est la seule carte que j'ai eue en ISA un jour, je suis trop jeune pour avoir eu une carte graphique en ISA.
Moi aussi, j'ai une carte son en ISA.
Que le gros souci de Intel, ça a été et c'est encore le gros souci d'Intel, c'est le développement des drivers, de tous ces chipsets et cartes graphiques qui sont... Les drivers de cartes graphiques sont des... Les drivers en eux-mêmes sont des vraies merdes.
Ah oui,
alors ceux qui demandent, alors en gros ça veut dire que tu peux avoir un super chipset, une belle puce qui sait bien gérer tout ça, mais si le logiciel qui va faire la liaison entre la carte et le système est pourri, gère ça comme un pied, bah ça sert à rien. Donc au final t'as des pirates.
Quand en plus le système est pourri aussi derrière.
Voilà, si après ton système est pourri. Donc en fait au final t'as une super carte et tout ça, mais le logiciel ne sait pas bien l'exploiter. Et c'est vrai que ça a toujours été un gros souci chez Intel, c'est le développement de ces fameux drivers.
C'est vrai que j'ai été interactive et quand même un peu mieux pour programmer driver, mais bon, enfin, ça, je laisserai les amateurs de jeux vidéo comprendre cette private joke. Non, personne n'a joué à driver sur PS1. Bon, d'accord, je suis un nostalgique qui parle de jeux que personne n'a connu. C'est pas grave.
En fait, j'y ai joué, mais je devais être trop jeune pour me rappeler de quelque chose.
D'accord. Drasioff, histoire d'effacer vite ma vanne, est-ce que tu peux enchaîner, s'il te plaît ?
Alors, après, qu'on s'appelle
le reste ?
Il y a eu les Intel Centrino Duo. Bah, c'était surtout par rapport à l'économie d'énergie là-dessus déjà. Mmh. Et aussi, ils ne tournaient pas fond les processeurs quand tu tournais directement sur batterie de ton ordinateur.
Ah, c'était à géométrie variable quoi. En fait.
Voilà, exactement. Mmh.
Ouais. D'accord.
Et après, il y a eu, récemment, il y a les Intel Atom qui mettent directement dans un netbook, qui sont des processeurs qui sont super petits, qui chauffent très peu et qui consomment très peu d'énergie. C'est ce qu'on appelle des processeurs à basse tension.
D'accord, et ils sont donc aussi puissants que le processeur d'avant ?
Tout à fait, parce que je crois qu'on arrive à les monter à 1,6 GHz.
Oui, mais les GHz, c'est comme on l'a dit, c'est pas le seul
paramètre. C'est l'équivalent qu'on appelle d'un Intel Core de Duo, Intel Core 2, Dual Core, pardon, excuse-moi, en Intel Atom, sachant qu'ils sont beaucoup plus petits. Mais niveau D'accord. performance, ça vaut les Pentium Dual Core.
D'accord, donc ça vaut un ordinateur portable d'il y a 3-4 ans en fait.
Exactement, et tu peux mettre Vista sans aucun problème dessus.
D'accord. Enfin, faut avoir envie après.
Ouais, oui, oui, voilà. Non mais. Donc ensuite, continue.
Alors après, il y a eu.
Il y a quelqu'un qui fait la vaisselle là.
Non, vous inquiétez pas, c'est un camion poubelle qui passe dans la rue, il va pas tarder à partir. Et vous avez de la chance, vous avez pas les odeurs. Donc vas-y, faites abstraction du bruit ambiant que je couperai ou pas au montage.
Il y a eu les AMD Athlon 64 mobiles pour les PC portables justement, qui étaient supposés consommer beaucoup moins d'énergie et être beaucoup plus performants. Mais personnellement, enfin, pour en avoir essayé plusieurs, c'est vrai que les AMD Athlon, moi, je les comparais au Pentium 4, c'est-à-dire Pentium 3 d'il y a 40 ans.
Oui, mais attends, la différence, c'est que quand même les AMD Athlon, si je me rappelle bien de mon époque, dans les années 2000 et quelques, ils avaient la même puissance, mais ils tournaient un nombre de gigahertz inférieur. C'est pour ça qu'on les appelait Athlon XP 3000, par exemple, parce que ça valait un Pentium 4 à 3 gigahertz, c'est ça ?
Voilà.
Tout à fait.
En fait, ils étaient plus performants. Voilà. S'ils tournaient moins vite et que...
Les AMD Athlon, c'était surtout fait pour les gamers. Enfin, moi personnellement, j'ai pas tellement joué, mais c'est vrai que pour les personnes qui font des jeux vidéo, là, l'AMD Athlon, c'est ce qui va être mieux, ouais.
C'était le premier qui faisait tourner GTA 3, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez, GTA 3, le premier GTA en 3D. Bon, on a fait une chronique tech là-dessus, mais pour vous donner une idée, c'était ce que on était à peu près tous obligés d'acheter pour faire tourner ce genre de jeu. Donc le Crysis de l'époque, hein, c'était la référence. Mais est-ce que ton PC il fait tourner GTA 3? Voilà, donc c'était... Mais bon, on digresse.
Et pour finir, il y a comment s'appelle, il y a les nouveaux. Enfin, je sais pas s'ils sont sortis encore dans le commerce parce que j'ai pas trouvé des notes sur internet. Les nouveaux Atom Centrino.
D'accord. Question du chat, très intelligente d'ailleurs comme question. Ils sont 32 ou 64 bits les Atom?
Ils sont 32 bits.
D'accord. Donc vous ne ferez pas tourner Vista 60 édition spéciale 64 bits sur un.
Ah, ça c'est.
Voilà.
Sur un netbook.
Oui, de toute façon, ouais. Enfin bref.
Donc en fait, comme tu l'as très bien dit avec les AMD Athlon, qui étaient cadencés en gigahertz beaucoup moins vite que les Pentium, mais par contre qui étaient à performance égale. C'est pour ça qu'on leur a donné Athlon 2000, Athlon 2400, etc. Et ça a inauguré ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire avant on cherchait à faire le plus de gigahertz, performance brute, et actuellement on cherche à faire le plus de performance par watt.
En même temps, en ce moment, on essaie de faire le plus de cœurs possible aussi. Hein.
Voilà, c'est ça.
Pour le end user, il a combien de cœurs cet ordinateur, quoi.
Voilà, ça aussi, ça commence à être le nouvel argument commercial, c'est combien il y a de cœurs.
Mais oui, alors mais c'est fait, normal, Mathieu. Et là, je représente encore la ménagère de moins de 50 ans. Va comprendre deux ordinateurs qui tournent tous les deux à 1,6 GHz, par exemple, et tu lui fais, non, celui-là, il est mieux. Enfin, celui-là, il coûte vachement cher, celui-là, il coûte moins cher. La ménagère, elle va se tourner vers celui moins cher, parce que pour elle, l'indice qu'elle a et qui date depuis un moment, c'est le nombre de gigahertz. Maintenant, il y a le nombre de cœurs, il faut des trucs simples, tu vois. Donc moi je suis pour qu'on mette une étiquette avec dire cette caisse est capable de traiter tant de clients par seconde. Tu vois, comme ça au moins l'avantage c'est qu'ils auront enfin je veux dire, il faudrait qu'il y ait des benchmarks dans les rayons. Tu vois ce que je veux dire? Un truc avec des graphes qui comparent les ordinateurs, un peu comme la Fnac faisait pendant un temps, puis maintenant ils le font plus trop. Mais avant ils faisaient des tests où tu avais des comparatifs réels de la puissance de chaque ordinateur avec des avis, etc. Et ça je trouve ça manque un peu, et du coup j'ai l'impression
avec
que les constructeurs
un indice commun, non?
Ouais, oui, c'est ça. Le souci, c'est que effectivement, tu peux faire l'analogie là de des caisses avec le nombre de cœurs, mais le souci, c'est que si tu fais un bench, par exemple avec Windows XP, avec telle ou telle application, sur un processeur simple cœur, puis 2 cœurs, puis 4 cœurs, puis 8 cœurs, t'auras pas forcément de différence. Parce que là aussi, t'as quelque chose d'abstrait, c'est le logiciel. C'est-à-dire le système, s'il n'est pas optimisé à gérer le multicœur et l'application n'est pas optimisée à gérer le multicœur, les gains sont vraiment de l'ordre d'un petit pourcentage. Et c'est pour ça que dans le prochain Snow Leopard, on a cette fameuse technologie qui s'appelle grande centrale.
Ouais.
C'est-à-dire une couche du système qui est invisible et qui elle-même, en fonction de ce que va dispatcher sur les cœurs, les différentes choses à traiter de manière totalement optimale en fonction du nombre de cœurs qu'on aura. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose de complètement transparent, et qu'avec la même application en passant de Léopard à Snow Leopard, on est censé avoir des gains de performance assez énormes.
Oui, mais justement, si on avait entre guillemets un test en condition, tu vois, où par exemple on chercherait la rapidité ou le pourcentage de processeurs ou de systèmes restants une fois que t'as ouvert trois fenêtres d'un navigateur, ton truc de mail, Photoshop, un film en HD, etc., etc., les gens s'apercevraient que niveau puissance, on a beau avoir le même hardware que certains PC, ça déchire pas mal un Mac, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah ouais.
Il faudrait un indice commun, dire voilà, on fait tourner par exemple, mais ne serait-ce que de choisir une liste de logiciels libres à faire tourner en parallèle, et à dire voilà, bah, à la fin, ça par exemple, soit c'est capable d'ouvrir un nombre de choses données en temps de secondes, soit il faudrait trouver une démarche. Il y a des tests hein, de toute façon qui sont effectués pour la puissance des voitures, pourquoi il n'y en a pas encore pour l'informatique, parce que pour l'instant c'est, et surtout à l'heure actuelle, moi qui ai décroché pendant un ou deux ans sur les processeurs, oui depuis que je suis passé sur Mac, le truc c'est que je reviens après avoir pas suivi l'actualité pendant deux ans sur les pros, et je ne comprends plus rien. Et j'imagine les gens qui doivent galérer ou alors qui se font complètement avoir par les vendeurs.
La plupart des gens dans mon entourage qui ont switché au Mac ne savent absolument plus quels composants il y a dans leur ordinateur, alors qu'avant c'était des gros gamers qui savaient la moindre pièce, le moindre composant, ils savaient citer la marque, la date de sortie, tout ça.
Ah, et en fait,
à partir du moment... voilà, à partir du moment où tu es sur une machine où ça marche, où le système gère plutôt très bien tous ses composants et que tu n'es plus là à dire merde, faut que je fasse un... Oui ?
Voilà, c'est ça, tu te poses plus de questions. Non, je dis, tu te poses plus de questions quand ça marche, tu te dis pas, il faut que je change ma carte machin et tout.
Il faut que je défragmente parce que là, que je sens que le disque dur il charge un peu trop.
Défragmentation. Ça faisait
la défragmentation. Mais c'est aussi un truc, c'est aussi la défragmentation dans Windows, c'est le dernier système au monde où ça existe encore et c'est aussi une belle connerie. Enfin, c'est
voilà. On n'est pas là pour taper du Microsoft, on est là pour parler des processeurs. Pour une fois qu'on n'a pas Microsoft dedans.
C'est quelque chose qui devrait plus.
Non, mais Linux défragmente aussi quand on l'éteint complètement à l'arrache et qu'il doute de la stabilité des données. Bon, mais on ne doit pas le faire tout le temps pour que ça marche.
Mais bon, donc voilà, c'est une question d'optimisation après du système qui doit savoir gérer que ce soit autant les multicœurs que les 8Go de RAM que le 64 bits.
Ouais, mais aussi il faut qu'on s'appelle, enfin je vais cracher sur Mac. Il faut savoir aussi que le système macOS, il y a à peu près, je sais pas, il y a à peu près une dizaine de séries de Mac. Tandis que Windows, il y a je sais pas combien de fabricants, donc à mon avis, t'imagines si tu faisais un système d'exploitation par marque. Donc c'est surtout par ça, enfin Windows.
On lui avait dit de pas cracher sur le Mac et je promets c'est pas moi qui l'ai déconnecté. Il a voulu parler de PC et bah tiens ça lui apprendra. Skype s'est vautré la gueule. Je pense qu'il est sur son Mac, il a pas dû aimer son Mac.
Je pense que...
Mais c'est vrai que non mais reconnaissons quand même la performance de Microsoft qui arrive à faire un système qui tourne quand même pas à peu près bien milliards de combinaisons quoi. C'est ça que je pense que tu voulais dire Razioff. Mais je crois qu'il est revenu. Que je voulais dire, Drasioff.
C'est ça, ouais. Alors, du coup, Windows, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont généralisé, tout simplement, tandis que macOS s'est spécialisé.
Bon, alors, Drasioff, il te reste 4 minutes pour finir ton sujet. As-tu fini ou est-ce que je lance la musique ?
J'ai fini, pour ma part.
Je vais pouvoir lancer la musique. C'est-à-dire, je viens de percevoir, ma question était conne. Est-ce que t'as fini et où est-ce que je lance la musique ? Donc, dans les deux cas. C'est bon, c'est pas grave. Donc, justement, on revient juste après pour parler de navigateurs. Et là, c'est Gugus et Pof qui sont chacun en train de se préparer aux deux coins du ring pour se mettre joyeusement sur la gueule. Donc, on se retrouve juste après.
Le débat d'octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Yeah. get new friends. I know the funny names. They promise you a better life. But all you get is bad headaches. You're fearing the demons. The voices in your head crouching in your little world where everything is in. Sometimes it's easy to run away from yourself.
Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres qui viendraient de nous rejoindre. Nous avions parlé de processeurs. Si vous nous écoutez en direct et vous avez raté ça, rassurez-vous, ça sera un podcast dans pas longtemps. Avec moi, j'ai Aldrasioff, Mathieu Blanco, Gugus et Pof. Et les deux derniers cités vont nous parler de deux navigateurs qui ont leur fanboy au sein de l'équipe. Et donc, il y a Gugus, fanboy de Safari 4. Mm-hmm. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je suis fanboy de Safari 4. Oui, bonsoir tout le monde.
Voilà, et tu l'assumes? C'est bien.
Oui, j'assume.
Bonjour Gugus. Et il y a aussi Pof, fanboy de Chrome.
Non, moi je suis fanboy de Google, donc forcément si Chrome c'est de Google, c'est vachement bien.
Ah tiens, pardon, j'ai oublié un truc quand même, c'est que la chanson que vous venez d'écouter, c'est New Friends de Lou Dog, et c'est encore de la musique de Jamendo. D'ailleurs, j'ai mis les playlists à jour.
Pas mal, j'ai bien aimé.
Ouais, c'est ça, contrairement à ce que tu disais dans Skype. Bon, reprenons. Il n'y a pas déconner non plus. J'allais pas te faire de cadeau. Eh bien, vu que je t'ai sous la main, pardon, Pof, justement, qu'est-ce qui, pour toi, fait en sorte que Google Chrome est supérieur à Safari? Sachant que là, en fait, là, je vais donner la raison du débat, c'est que Google Chrome va pas tarder à débarquer sur nos Macs, et donc nous aurons le choix cornélien entre Google Chrome et Safari. Et donc, pourquoi toi, tu dirais à tous les utilisateurs de Mac de se ruer sur Google Chrome dès sa sortie?
Il est censé sortir quand?
Oula, on n'a pas de date.
On n'a pas de date.
On a eu une première version de développeur, donc ça veut dire que c'est pas loin.
Il nous laisse le choix dans la date, quoi.
Vas-y. Voilà, la première raison, ce serait que je l'ai énormément testé sur Windows et que sur Windows, c'est le meilleur navigateur qui existe, d'après moi. Parce que c'est le plus rapide, c'est le plus léger et c'est le plus simple.
D'accord. Gugus ?
Mais si ça fait comme, comme Firefox entre la version Windows et la version Mac, s'il y a une même différence, ça va être un petit peu.
Il y a une différence entre la version Windows et la version Mac ?
De Firefox, ah oui, bah merde, au niveau de la vitesse.
Je n'ai pas saisi. Non, enfin, je sais pas, j'ai pas.
Firefox ou Mac, il est comparé à la version Windows, il est incroyablement lent.
À partir de la version 3, j'ai toujours trouvé que Firefox plante dans tous les sens, peu importe le système, et qu'il est aussi lent partout. À partir de la version 3.
Oui, mais ça, c'est subjectif comme avis.
Oui, non, mais de toute façon, c'est très subjectif ce soir.
Non, mais justement, je veux des arguments objectifs, les gars. Attention.
Non, mais c'est vrai, si tu lances la version, comment dire, tu fais le chargement d'une page entre la version Firefox de Windows et la version Firefox de Mac. La version Firefox de Mac, ça va être à la traîne. Hein. Grosse ramasse. Disons
que Firefox en virtualisation, d'ailleurs je vous renvoie au débat d'octet précédent, Firefox Windows en virtualisation sur mon Mac va plus vite quand même que Firefox lancé sur mon Mac.
Nativement, donc voilà.
Nativement, donc ça donne une petite idée de... Hein. Bon, non mais faut...
Revenons...
Firefox, à mon avis, en fait disons que je le comparerais à un 4.4, c'est-à-dire qu'il passe partout, il reste relativement fiable. Moi, c'est celui qui se vautre le moins. Il est aussi bardé de plein d'options, siège en cuir, climatisation, tout ce que vous voulez. Enfin, ou toolbar, tout simplement, dans le cas de Firefox, avec possibilité de changer l'interface un peu dans tous les sens. Mais c'est pas une Formule 1, quoi. C'est-à-dire que il a
forcément,
un peu ses lenteurs.
T'as plein d'avantages, t'as forcément des inconvénients qu'il faut accepter si tu choisis comme navigateur.
Voilà, et principalement l'inconvénient que je donnerai en premier, c'est que c'est pas le plus rapide. Voilà. Mais justement, est-ce que beaucoup de personnes utilisent toutes les toolbars, toutes les skins, pardon, je vais essayer de parler français, toutes les apparences différentes, toutes les barres d'outils, je pense pas, et c'est pour ça que, à mon sens,
j'ai souvent vu des gens qui des plugins, même les gens qui l'informatique c'est pas leur passion ni leur métier. Ceux qui utilisent Firefox, ils ont toujours 2-3 au minimum plugins. Parce que je sais pas, ils vont sur eBay détecte qu'ils sont sous Firefox, ils leur proposent de télécharger la barre et puis ils peuvent suivre leur enchère par exemple. Donc oui, même le néophyte va utiliser un peu le bar de Firefox.
Ouais, moi je connais aussi pas mal de néophytes qui se font installer la barre sans comprendre trop pourquoi. Ça tu vois, c'est comme tu disais, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bah là niveau inconvénient, je peux dire que j'ai vu des gars avec je sais pas combien de toolbars et qui faisaient je sais pas d'où ça vient, écoute, je suis allé sur des sites, ils m'ont dit de cliquer là pour que ça aille mieux pour aller sur le site. En fait, c'était avoir la toolbar quoi. Ouais. Et donc du coup, ils se retrouvaient avec 4-5 barres d'outils quand même. En plus des originales, donc ça, tu finis par voir ton écran sur du 50 par 1020, enfin du 1024 par 50, tu sais, où tu vois à peine une ligne de texte. Donc il y a des fois où c'est pas toujours au top. Mais justement là sur le cas de Safari et Firefox et Safari et Google Chrome, on est sur le cas où les navigateurs ont été simplifiés. Enfin, après vous avez le droit d'être contre cet avis, mais pour moi ils ont essayé de simplifier au maximum la navigation.
C'est clairement dit pour Chrome, ils le disent que c'est qu'ils veulent faire un navigateur accessible avec moins de boutons et beaucoup plus simplifié pour être beaucoup plus simple à utiliser. Il le disait dans la présentation.
Oui, après moi j'ai envie de dire, quand tu ouvres Safari 4 pour la première fois sans toucher aux préférences, tu as au bas mot, oh non, tu as 4 boutons dans la barre d'outils.
4 boutons.
En même temps, voilà, 4 boutons.
Ouais, oui, mais attends, sur Safari, la différence... Enfin, pardon, je vais le prendre dans l'autre sens. Sur Google Chrome, ce que j'apprécie par-dessus tout, mais après ça peut être un gadget, hein, c'est le fait qu'il n'y ait plus de différence entre la barre d'adresse, qui finalement, pour le commun des mortels et la ménagère de moins de 50 ans que je représente ce soir décidément assez souvent, ne sert à rien, d'accord ? La barre d'adresse, le nombre de personnes qui en fait vont dans Google pour aller sur... déjà, il y en a qui tapent Google dans Google. Petit, hein, dans la petite barre de recherche Google, le nombre de personnes qui tapent Google, c'est quand même assez... Mais vous savez, pour aller sur vos mails, par exemple, pour aller sur Gmail, y en a qui tapent Google au lieu de taper Gmail. Y en a aussi qui, pour aller sur, je sais pas, moi, podradio.fr, tapent dans Google, podradio.fr, Donc, la barre d'adresse, qui tape les adresses à la main à l'heure actuelle?
Moi, elle me sert à beaucoup d'autres choses. Elle me sert à avoir des boutons que je rajoute, qui sont dans Safari, comme accéder rapidement à la fenêtre de téléchargement, les signets, les webclips, les informations. Enfin, ça me sert, la barre d'adresse. Enfin, je sais pas.
Bah, je sais pas.
À récupérer un flux RSS.
Non, mais il parle carrément du champ d'adresse, là, pas au...
Et même du champ d'adresse. Je veux dire, le champ d'adresse, j'ai envie de taper quelque chose. Par exemple, j'ai envie d'aller sur Podradio, je tape podradio.fr. Ou alors je passe par le top site, mais je tape podradio.fr.
Ah ouais. Bizarrement, même moi je tape pod radio dans Google, tu vois. C'est
aussi.
De Google, enfin je sais pas, c'est pourquoi utiliser Google tout le temps alors que vous avez un navigateur qui fait un
Google et notre
parce que
maître.
C'est pratique par exemple dans la barre d'adresse au lieu de taper facebook.com, si tu tapes juste face, il te redirige automatiquement vers Facebook.
Et tu peux taper n'importe quelle lettre, ça te renverra vers Facebook. Hein. que ça soit la première ou la 250 000 pages, vu le nombre de trucs dans Facebook, ça devrait finir par te renvoyer de toute façon à un moment ou à un autre dans Facebook.
C'est que la barre d'adresse de Google Chrome a quelque chose de très très pratique, c'est que en même temps, elle fait suggestion de recherche et suggestion d'adresse. Ouais. C'est-à-dire par exemple, si on n'a jamais tapé YouTube et qu'on tape You, eh ben il va te marquer en dessous YouTube, etc.
Oui, mais là c'est normal, c'est Google. Hein. Donc à un moment, qui propose YouTube, reste... quel que soit le truc que tu tapes, ça serait logique.
Donnez-moi un site sur lequel tu n'es jamais allé, je sais pas. On va prendre quoi? Oula, ça va être dur ça tout d'un coup.
Pornhub. Ah non, tu es déjà allé, pardon. Oui, donc.
Meilleur résultat, non? Moi aussi, j'ai aussi des suggestions dans la barre d'adresse. Hein.
Elles sont moi, je les vois pas, hein. Je les ai jamais vues, ces suggestions. Ah bah, donne-moi un exemple.
Je sais pas, je suis en train de taper. Qu'est-ce que je pourrais taper là?
Windows.
Oui, il faut toujours taper Windows ou taper Microsoft.
Bah, écoute, moi, je suis en train de taper Microsoft et il n'y a aucune suggestion qui s'affiche.
Non, d'accord, bah, c'est de l'autre côté. Donc, moi, c'est le meilleur résultat par rapport à mon historique, j'imagine.
Sûrement oui, ça doit être le résultat de l'historique. Il y a un désavantage aussi, c'est que quand tu tapes dans la barre d'adresse, en fait, tu peux taper. En fait, il recherche dans ton historique en même temps, de la même manière que tu étais en train de dire, sauf qu'il recherche aussi dans les titres, et il peut rechercher en plein milieu de l'adresse aussi. C'est-à-dire que si c'est une adresse, imaginons la page live de Podradio, podradio.fr/live, si on tape live, et ben dans les suggestions, on aura podradio.fr/live.
Bah, moi aussi, là, je l'ai. Enfin, oui, bon. D'accord.
Et bah tant mieux.
Et bah tant mieux. Mais c'est juste que c'est normal. C'est Google. Ils sont copiés l'un sur l'autre. Si tu pars du principe qu'ils sont copiés l'un sur l'autre, on va dire que Safari, que Firefox a copié sur Netscape Navigator.
Bah, il est même hérité de Netscape Navigator.
Bah oui, c'est, de toute façon, c'est que de l'héritage, les navigateurs internet. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Pof, et il me dit que c'est copié et que c'est pas bien. Donc...
J'ai jamais dit ça, je n'ai jamais,
j'ai jamais dit ça.
C'est pas bien, j'ai dit que Google Chrome.
Ce sont des calomnies, monsieur.
C'est plus ergonomique.
Ah, bon, tu m'étonnes. Pardon. Oui, oui. Bah, si tu veux, Pof.
Il y a une des fonctions aussi dont je me sers souvent, c'est tous les sites internet qui ont un champ de recherche, à partir du moment où tu fais une ou deux recherches, j'ai essayé de parler correctement, les champs de recherche qui viennent dans l'équivalent, sur Safari 4 tu as les top sites avec la recherche de l'historique en bas, sur Google Chrome tu as les mêmes top sites sur la gauche et à droite tu as les onglets récemment fermés, la recherche dans l'historique, et tu as aussi des champs de recherche des sites que tu visites souvent. Donc si tu visites souvent YouTube, tu as les champs de recherche, tu as le champ de recherche pour rechercher directement sur YouTube.
Ça c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Et après, il y a un autre avantage aussi. Ouais. C'est par exemple si tu tapes youtube.com dans la barre d'adresse et que tu appuies sur la touche tabulation, tu peux directement sur YouTube.
Je vais faire le MC, mais
j'ai envie de dire que là, ta voix s'est coupée, ton argument est invalide. Hein. Donc, si tu pouvais le refaire un petit coup.
Sans
l'instant de lag.
C'était le. Vous m'entendez bien là cette fois?
Ouais, t'entends bien.
Voilà. Donc c'était le côté, je sais pas si ça on l'a bien entendu, que quand tu tapes youtube.com et que tu appuies sur tabulation, tu peux chercher directement sur YouTube. Par exemple, avec n'importe quel site. Je pense que même sur podradio.fr, ça le ferait. J'ai pas testé vu que j'ai pas eu de Google Chrome sous Windows.
Mais décidément, cet argument ne passe très mal sur Skype, mais bon, peu importe.
Non, mais moi, j'ai compris, mais c'est vrai que ça, je savais pas. Ça, je savais pas.
Et ben, c'est quelque chose qu'en fait, il faut remarquer parce que quand on tape l'adresse du site internet, il y a juste marqué à côté des suggestions appuyer sur tabulation pour rechercher sur le site.
Je sais que si on veut parler des fonctions que Safari n'a pas, c'est vrai que ça c'est intéressant, mais j'utilise juste un seul plugin, je pense que tout le monde devrait avoir, qui est Glimpse, et j'utilise que pour le champ de recherche Google d'ailleurs, vu qu'il me donne une sorte de recherche à la Spotlight. On commence à taper quelque chose et puis il recherche sur Google.
C'est génial ça, ouais.
Et en fait ce plugin, bon en fait c'est Inquisitor le fait d'ailleurs aussi, mais il fait que ça. Et en fait l'avantage de Glimpse c'est qu'il peut faire autre chose, comme la navigation en plein écran qui n'est pas activée sous forme de bouton directement dans Safari, mais sous forme de commande terminale. Et
qui est navigation en plein écran qui existe sous Chrome version 2.
Non mais et par contre, non mais là justement navigation en plein écran, qui navigue en plein écran parmi vous? Parce que moi je suis contre
ça m'arrive
cette idée.
Si je veux regarder des films en streaming, genre sur un stream.
D'accord.
Oui, voilà, mais ça, dans ce cas, c'est la fonction que j'utilise dans les, par exemple, dans YouTube quand j'ai le bouton plein écran, mais c'est tout. Hein.
D'accord, je vois. Non, parce que sinon, je comprenais pas, moi, parce que sinon, ça peut servir. Qui mettent Firefox ou Chrome en plein écran.
Non, mais j'ai envie de dire, ça peut servir, par exemple, dans les magasins quand tu as envie de laisser un navigateur en plein écran pour que les gens aient pas à faire autre chose sur le Mac, par exemple.
Bah, il suffit de faire échappe les trois quarts du temps, ou F11.
Oui, mais est-ce que la ménagère de moins de 50 ans sait qu'il faut faire échappe pour sortir du même plat d'écran?
Oui, parce que moi je mets des post-it partout pour le dire aux gens. À la Fnac, machin, tout ça, je mets des post-it. Appuyez sur échappe et vous avez accès à tout l'ordinateur.
Voilà. D'accord. Et puis aussi, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut, il peut gérer les champs de recherche et ce plugin et faire quelques trucs avec les onglets comme annuler la dernière fermeture, etc. Enfin voilà. Des petits trucs que Safari n'a pas et que j'utilise.
Annuler la fermeture, le truc qu'il fait Firefox en fait.
Oui, voilà.
Et que Google Chrome doit faire aussi, il me semble.
Oui, mais c'est, il disait que justement Google Chrome le faisait. Et ben, les gars, ça fait quand même un quart d'heure là qu'on est plus ou moins en train de cirer les pompes à Google Chrome. J'aimerais bien plus d'arguments sur Safari.
Plus d'arguments
positifs. Et là,
Safari, il est disponible sous Mac.
Non mais justement, Mathieu Blanco, on se met dans l'idée de lorsque Google Chrome sortira sur Mac, s'il a les mêmes fonctions et la même facilité d'utilisation et la même rapidité que sur PC. Donc c'est l'histoire de se projeter un peu dans l'avenir, mais imaginons qu'ils soient tous les deux sur les deux plateformes, d'accord. Même si Safari sur PC, j'avoue que bon. Hein. Je préfère Internet Explorer à choisir hein, entre deux poisons.
Non, quand même. Tu exagères.
La file là, tu t'avances.
Mais si, quand j'avance, tu recules. Hein, bon.
Oui, non, mais je préfère quand même, entre les deux navigateurs qui vont tout aussi lentement, j'en préfère un qui t'affiche bien les pages web au moins.
Ouais, voilà.
Alors,
oui, mais c'est Safari, vrai que quand il affiche pas toujours bien les pages web.
Si, ça va dans l'ensemble.
Oui, va mieux qu'Internet Explorer.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est vrai que si Google Chrome débarque enfin sous Mac, mis à part la valeur ajoutée que va pouvoir ajouter Google avec l'ensemble de ses services à l'intérieur, je vois mal comment on peut les départager autrement. Et là, je pose la question, mais aux deux intervenants.
Alors les gars, on s'enlève les doigts et on répond au monsieur, et plus vite que ça.
Pourrais-tu reformuler ta question de manière précise?
Effectivement, si sur le même système on peut avoir le choix entre ça sous macOS, quand on aura le choix entre Safari 4 et Google Chrome, qu'est-ce qui va les départager, vu que vu qu'à grosso modo le moteur à l'intérieur c'est le même, c'est le WebKit.
Oui, non, mais c'est le même.
Les deux ont des interfaces hyper épurées, simplifiées. Mis à part ce que Google peut rajouter à Google Chrome, une meilleure intégration de ses services. À l'intérieur, qu'est-ce qui va pouvoir les départager?
J'ai envie de dire une réponse à la con, mais ton type d'utilisation, tout simplement. Parce que c'est vrai que moi, j'utilise peu les services de Google, donc c'est pas Google Chrome qui va m'intéresser. J'utilise aussi une autre fonction qu'ils ont mis depuis Tiger, depuis Léopard, qui est le WebClip, qui me permet de faire des widgets avec un bout de page web. Après, il y a aussi le fait l'intégration à macOS. Alors ça dépend des fonctions aussi que tu utilises, j'ai envie de dire encore. L'intégration à Species est quand même très bien faite, et puis le fait de pouvoir glisser des onglets en dehors et dans une barre, enfin de pouvoir les organiser un peu comme on veut.
Google Chrome le fait ça
aussi. Hein.
Oui, mais de façon, on va dire, comment dire,
De façon très fluide.
Aïe.
C'est ce que je dirais, intégrer à macOS et tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc,
Dire au niveau de quoi? De l'apparence, au niveau de je comprends pas ce que tu appelles le...
Oui, au niveau de l'apparence, avec... c'est-à-dire faire quelque chose de...
Qui en gros soit gris métallisé, quoi. Enfin non, maintenant c'est plus gris métallisé.
Même pas, c'est soit au niveau de l'animation, je veux dire...
Mais tu l'as ouvert Google Chrome, parce que je sais que ça fait une superbe animation, hein. C'est digne d'un programme Mac, hein.
Mais je même sous Mac, c'est-à-dire sous Mac, là je sors un onglet et ça marche tout aussi bien.
Non mais voilà, après je vais intégrer son système... comment est-ce que je voulais dire? Oui, utilisation du trousseau d'accès aussi.
J'imagine que les applications peuvent accéder au trousseau d'accès. J'ai du mal à imaginer que Google Chrome ne l'utilise pas.
Oui,
il me semble que Firefox n'utilise pas le trousseau d'accès.
Oui, mais c'est Firefox.
Il utilise son propre gestionnaire de mot de passe.
Il utilise le propre gestionnaire de mot de passe. Ouais.
Oui, mais c'est Firefox. C'est un truc qui est fait pour être multiplateforme, tout ça. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre de trop non plus creuser dans chaque système. Tandis que Google Chrome, s'ils le sortent sur Mac, il faut qu'ils fassent une intégration parfaite.
Google avait dit qu'il s'intégrerait au système. Ils avaient dit quand on sortira la version Mac, elle sera complètement intégrée ou je sais pas quoi.
Voilà. Non mais il y a une différence au niveau de comment dire des relations entre la fondation Mozilla et Apple que entre Google et Apple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu plus de symbiose quand même entre Google et Apple, un peu plus de relations commerciales. Donc,
ça va jouer sur de petits détails en fait le choix de tel ou tel le choix entre Safari et Chrome sous Mac.
Ça va jouer sur l'utilisation. Bon, il y a aussi, après les gens qui préfèrent l'inspecteur web de Safari ou de Chrome. Après, c'est vraiment un détail
parce qu'ils sont exactement les mêmes. C'est juste une question de placement et d'ergonomie. Parce
c'est ça. Voilà,
sinon,
c'est ce que je dis.
Ils ont les mêmes capacités.
C'est juste.
Vous êtes tous les deux d'accord.
Voilà. Donc en fait, on n'arrête pas de s'engueuler. Maintenant qu'on fait les gens, on se rend compte qu'on est d'accord.
C'est merveilleux. C'est beau le débat d'Octet, ils sont arrivés à se mettre d'accord à l'antenne.
J'ai envie de remettre
une petite tonche à Pof au passage, vas-y.
Une petite tonche sur quelque chose qui m'a balancé à la figure et qu'il ne redit même pas, c'est la vitesse des navigateurs.
Qu'est-ce que je t'ai averti, je l'ai peut-être oublié. Vas-y.
Oui, la vitesse des navigateurs, que tu es en train de me prendre la tête dessus, hein.
Oui, parce que Google Chrome est beaucoup plus rapide que Safari sur Windows. Après, sur Mac, j'en sais rien.
Ah oui,
voilà, sous Windows, c'est pourquoi tu vas comparer sous Windows. Enfin, voilà. J'ai envie de dire, c'est logique que.
L'argument de vente de Safari, c'est le navigateur le plus rapide sur toutes les plateformes.
Ils ont dit le navigateur plus rapide. Je te rappelle qu'ils ont fait une comparaison dans la keynote avec un moteur JavaScript, pas avec une vitesse de chargement de page.
Oui, c'est très différent.
Ce serait différent, mais
je me tourne vers l'ami des caissières et des ménagères de moins de 50 ans. Mathieu, c'est quoi un moteur JavaScript, s'il te plaît?
Là, on va demander l'aide. Le JavaScript, un site bourré de JavaScript, Facebook. Facebook, tout simplement.
Gmail, le webmail Gmail.
C'est pouvoir utiliser des objets dans votre navigateur, par exemple. C'est un langage de script.
Des petits glisser-déposer, des petits mouvements à l'intérieur.
C'est ça, ouais, voilà. Exactement.
Ouais, voilà. Le fait que quand tu cliques sur quelque chose sur Facebook, ça te fasse apparaître une autre petite fenêtre sans recharger toute la page, bah voilà, c'est du JavaScript, c'est de l'Ajax, c'est toutes ces petites technologies. Et donc c'est les trucs qui bouffent énormément de mémoire les sites en sont remplis, en sont de plus en plus remplis. Et comme c'est un truc qui prend beaucoup de ressources, bah ils se basent des fois là-dessus pour dire notre navigateur il charge avec 2 millisecondes d'avance la page Facebook comparée à machin. Mais ça joue toujours
la référence pour Apple, c'est le site du New York Times apparemment, vu qu'ils en parlent tout le temps. Et le site du New York Times qui a beaucoup de JavaScript.
Ça doit être le site le plus visité chez eux, ou j'en sais rien.
C'est qu'ils ont un pote qui s'appelle David Pogue, voilà. Surtout.
Voilà. David Pogue. J'étais en train de chercher le nom.
Ça se joue à des poils de fesses, mais au niveau de la vitesse.
Excellent Internet Explorer.
Oui, mais en fait, la seule chose, c'est que voilà, en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils ont développé un moteur de JavaScript différent des autres, qui est le Squirrelfish. Bon, voilà, après, est-ce que ça se joue vraiment pour l'utilisateur
final?
Il me
semble que c'est pas le même sur Google Chrome que eux. Ils ont un moteur de JavaScript
juste différent,
à eux, etc., voilà. Et qui est censé être beaucoup plus rapide, etc.
Mais tout le monde a le sien et tout le monde a la plus grosse, de toute façon. Donc voilà.
Voilà, et puis au final, l'utilisateur, ils sont lancés. À lancer 13 onglets en jouant de la musique avec un chat, voilà. MSN, donc le temps de chargement de sa page à la milliseconde, il s'en fout complètement.
Voilà, et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que donc on avait des petites comparaisons vite fait sur la ML de Pod Radio, des petites comparaisons de chargement de page, et en fait je pense que ce qui ralentit le plus les sites web aujourd'hui, c'est, et surtout les navigateurs, c'est le Flash quand même, vraiment. Ouais. C'est à cause de lui que Safari se met à bouffer beaucoup de mémoire au bout d'une utilisation prolongée.
Et c'est ce qu'il disait.
C'est ça.
Mais c'est vraiment que ça, que le Flash, quoi. Et c'est celui qui ralentit tout le chargement des pages web. Quand je voyais la comparaison que Pof m'envoyait, en fait, la seule différence, c'est qu'il chargeait pas le Flash. Donc en fait, c'est normal qu'il ait été beaucoup plus rapide sur les chargements. Et vraiment, le Flash est vraiment. Enfin, je comprends pas comment ça peut être aussi toujours aussi lourd, mais.
Je sais pourquoi le Flash ça ralentit. Hein. Si tu calcules, à chaque fois que tu prends l'autoroute, d'accord, à chaque fois que c'est marqué attention vitesse contrôlée par des radars, là tout de suite, dès qu'il y a, à ce moment-là, il y a tout le trafic qui se met à ralentir. C'est normal, c'est l'effet
voilà,
du Flash.
C'est parce que
Bon voilà, maintenant qu'elle est faite.
Le truc, c'est qu'en plus, tout le monde se met à ralentir, mais en plus à 30 à l'heure, alors que c'est limité à 90, faut pas se faire flasher.
C'est ça.
Quoi.
C'est ça. Vu qu'il nous reste à peine un peu plus de 4 minutes, j'aimerais bien que chacun, ou vous me donniez 3 arguments pour l'un ou pour l'autre, hein, de votre initiative personnelle. Juste 3 arguments pour Safari ou pour Chrome, ou même pour Firefox si ça vous pète. Juste l'histoire de pouvoir que les gens puissent faire leur propre melting pot des arguments qui les touchent. Et ben on va commencer d'ailleurs par les deux non-experts soi-disant de ce sujet. Donc, dans l'ordre de Skype, c'est-à-dire celui non alphabétique et complètement aléatoire que j'ai jamais compris des conversations Skype. Drasioff.
C'est l'ordre d'appel normalement.
Personnellement, moi j'utilise Firefox et Safari, j'ai jamais utilisé quasiment.
D'accord, mais je te demandais 3 avantages de l'un, de l'autre, enfin 3 arguments pour les comparer.
Alors Firefox, sa lenteur, non je rigole.
c'est un avantage.
Sa convivialité,
ouais.
Son ergonomie et le petit onglet où on met directement nos favoris dessus. Je sais que, comment ça s'appelle, Safari le fait, mais personnellement, enfin l'esthétique. Moi je préfère l'esthétique de Firefox que de Safari.
D'accord.
Et
Mathieu,
complexe.
En fait, j'ai switché de Firefox à Safari il y a 4 jours. je suis sur Firefox depuis le même avant que ça s'appelait Firefox, ça s'appelait Firebird, ouais. avant qu'il change de nom. Donc ça fait très longtemps que je suis sous Firefox et là j'ai changé parce que vraiment la version Mac est lente. Elle est vraiment lente, malheureusement. Mais pour ceux qui veulent choisir Firefox, c'est le nombre incroyable d'extensions. De petites choses qu'on peut rajouter. Il y a des dizaines de milliers de plugins qui servent à tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros argument de Firefox, c'est le côté libre, le côté totalement ouvert, on peut mettre quelqu'un devant qui vient d'Internet Explorer ou ailleurs, il sera pas du tout perdu. Donc voilà, la convivialité, c'est le bon mot, la convivialité, le nombre de plugins. Et Safari 4, ce serait vraiment l'intégration avec macOS et la rapidité, vraiment, qui est incroyable.
D'accord. Gugus ?
Alors moi, pour Safari, bien sûr, comme disait Mathieu, son intégration, sa rapidité, moi j'aime beaucoup son ergonomie, son esthétique, et puis comme petite fonction, donc les troisième point, les petites fonctions, le web clip, et puis le top site j'utilise beaucoup, mais ce n'est pas un argument juste en sa faveur, et l'historique en mode coverflow, parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique de retrouver ses pages de façon graphique que de façon texte, voilà.
Okay.
Textuel.
Pof, pour finir.
Pour Google Chrome Windows, alors vu qu'il n'est pas encore sorti sur Mac. Mm-hmm.
Mais que ça, tu peux aussi donner des arguments pour Safari, hein, tu n'es pas obligé d'être aussi manichéen, mais vas-y.
je vais donner quelques arguments déjà pour Windows.
3.
C'est que sur Windows, c'est C'est le plus rapide sur Windows. Après, c'est le plus simple et peut-être celui dont l'interface se rapproche le plus de Internet Explorer pour ceux qui étaient sur Internet Explorer avant. Et sinon, après, j'en ai peut-être pas de troisième.
Bah, c'est pas grave.
Et t'as simple, public, etc. Et sinon, en deuxième choix, moi, je prendrais Firefox. Pareil pour le côté complètement customisable. Comment tu dis ça de manière très française?
Personnalisable,
voilà, de manière totalement personnalisable par les extensions et par les apparences.
D'accord, donc on sait qu'il est personnalisé par les extensions et les apparences. Merci à la bande passante de POF. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, de savoir combien de navigateurs il fallait sur son ordinateur pour être sûr de pouvoir aller sur tous les sites, mais ça sera peut-être l'occasion d'un prochain débat, ainsi que pourquoi pas parler de mémoire vive, de SSD et d'autres choses qui sont passées dans le chat et qui étaient très intéressantes. Merci pour tous ces sujets. On se retrouve donc eh bien, dans 15 jours pour un nouveau débat d'Octet. Au revoir à tous et à dans 15 jours.
Au revoir, à bientôt.
Salut.